Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Avec Christophe Cessieux, David Douillet, Sarah Pitkowski et Marc Madiot autour de la table des GG ce matin. On pouvait retrouver la première heure en podcast. Évidemment, on a du direct, les amis, vous le savez. Depuis 9h30, la finale féminine de l'Open d'Australie. Eric Salio est sur place à Melbourne et la numéro 1 mondiale est bousculée pour l'instant.
Ouais, parce que Elena Rybakina a fourni un début de match absolument exceptionnel avec des frappes chirurgicales. Elle mène 4-3. Elle a consolidé son break réalisé d'entrée, donc 4-3 pour la Kazakhstanaise. Il faudra surveiller Zabalenka parce qu'on sait qu'elle peut vite monter en surchauffe. Si elle voit qu'en face ça joue toujours aussi bien, ça peut péter un câble.
D'accord, bah les annonces d'Eric Salio. Hein. Il est toujours bien informé, Eric, hein, donc il faut surveiller ça.
Tiens, je rappelle juste le caractère de ces jeunes femmes.
Un rendez-vous RMC ce soir. 3h du matin dans la nuit de samedi à dimanche, donc la nuit prochaine du coup l'UFC de 325 à Sydney avec Benoît Saint-Denis face à Dan Hooker. C'est un combat en poids léger, quatrième combat du français en 9 mois. En fin d'émission, participer au jeu du sport aujourd'hui, remporter le maillot signé et authentifié de Giannis Antetokounmpo au Bucks de Milwaukee grâce à notre partenaire authenticsignature.com. pour gagner votre maillot de Giannis, appelez le 3216 touche 4 ou envoyez jeu J-E-U au 7-32-16 J-E-U au 7-32-16. Mais d'abord, les amis, je vous l'ai dit, la patronne de l'Olympisme français, ex-ministre des Sports, s'assoit à la table des grandes gueules du sport.
RMC, face aux grandes gueules du sport.
À 6 jours des JO d'hiver de Milan Cortina, Amélie Oudéa-Castéra, présidente du comité olympique et sportif français, est avec nous ce matin. Bonjour. Je crois que le micro est allumé. C'est bon. Bonjour, Amélie Oudéa-Castéra.
Bonjour.
Ben voilà, très bien. On se salue ce matin. Vous étiez là en septembre dernier. Vous avez honoré les grandes gueules du sport en venant. En
étant toujours plaisir d'être là et de vous écouter.
On est ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Je rappelle RMC Radio officielle, hein, Christophe. On sera sur place du 6 au 22 février 2026 pour ne rien rater des performances françaises. Donc, en principe, vous allez être interviewé 56 fois par Christophe. Préparez-vous.
On va être un peu dispersé entre les sites, mais on va se retrouver
quand même. Hein.
Avant de parler des Jeux, Amélie Oudéa-Castéra, je voulais quand même qu'on dise un mot de Christophe Glaise, de journaliste sportif français qui a été condamné à 7 ans de prison en Algérie simplement pour avoir exercé son travail de journaliste pour le magazine SoFoot. Évidemment, on appelle dans les GG à sa libération depuis plusieurs mois. Vous étiez à une soirée de soutien cette semaine au Bataclan. Hein,
oui, absolument, comme j'étais aussi fin décembre aux côtés de Philippe Diallo au siège de la Fédé de foot pour... marquer vraiment notre soutien. Sa famille fait preuve d'énormément de dignité. On sait hein, que là, il est incarcéré. Il va plutôt bien. Il est costaud. Il se sait soutenu. Cette soirée au Bataclan était assez émouvante parce qu'il y avait beaucoup de témoignages de ses proches, de ses collègues. Moi, je veux vraiment à nouveau exprimer mon soutien entier et lui dire que tout le monde du sport pense à lui. C'est, je le disais l'autre jour, c'est vraiment un enfant du sport et le sport a besoin de ses journalistes. Le sport a besoin de ses médias. Les médias ont besoin de liberté. Et cette liberté, elle mérite qu'on se batte pour elle. Donc ce combat, c'est le nôtre. Et lundi, il a 37 ans. Ce cauchemar qui dure maintenant depuis plus de 20 mois, il faut vraiment que ça s'arrête. Donc, hashtag Free Glaise.
Voilà, Free Glaise. On pense à toi, Christophe, évidemment, si tu nous écoutes, notre confrère. On espère que les choses vont s'améliorer très rapidement pour Christophe Glaise. Alors, l'activité olympique, évidemment, avec les JO dans 6 jours qui débutent en Italie. Alors, on a plein de choses à voir avec vous, évidemment, les ambitions sportives. On sait que c'est des jeux qui sont toujours très politiques. Bon, les jeux sont politiques dans leur définition presque à chaque fois. Mais d'abord, peut-être un mot sur les porte-drapeaux, parce que c'était l'information d'hier. Vous avez appelé personnellement, j'ai vu.
J'ai un petit scoop quand même à vous faire.
Ah, vous avez un scoop à vous?
Oui, carrément.
C'est un troisième porte-drapeau, non, quand même pas.
Non, non, mais un 160e athlète au cœur de notre délégation, parce qu'on vient d'avoir un nouveau quota qui a été libéré en boss, en freestyle boss, ski de boss. Et on a pu sélectionner, le communiqué de presse va sortir là en même temps que je suis là. Et c'est Arthur de Villaucourt qui est sélectionné. C'est un jeune qui est de Megève aujourd'hui. Et on est très contents. Il fait partie des espoirs de cette génération montante vers 2030. Mais du coup, il va pouvoir être exposé à cette aventure olympique plus tôt. Donc, c'est formidable. On aura donc 160 athlètes dans cette délégation qui est la plus grande de l'histoire. Plus 2 remplaçants que je n'oublie pas en bobsleigh. Et puis, une composition grosso modo 55% d'hommes et 45% de femmes. Avec en plus... pas mal de jeunes. Je trouve un élan qui est assez chouette parce qu'on a 75% de la délégation pour laquelle ça va être les premiers jeux. Donc il y a un petit challenge à ce niveau-là. Mais il y a un dynamisme, il y a une cohésion, il y a une envie. Ils ont faim de victoire et ils font vraiment plaisir à voir. Nos deux porte-drapeaux, donc.
Clément Noël, voilà. Le skieur champion olympique de slalom, et la snowboardeuse Chloé Trespeuge, double médaillée en snowcross. Quand vous les avez appelés, déjà, je pense qu'ils ont, compris très rapidement. C'était pas juste pour dire ça va, toi.
Fou de bonheur. Alors, Clément, il est toujours un petit peu plus réservé, mais on sentait qu'il était vraiment fier. Parce qu'en plus, il appréhendait un peu ce système de l'élection par les pairs. Il n'avait pas vraiment voulu faire campagne, etc. Donc, il était hyper touché, en fait.
Il dit qu'il ne veut pas briller plus que de raison, en fait.
Oui, hein, il a ce petit tempérament un peu discret, mais qui fait aussi son charme. Chloé, elle était folle de joie. Il y avait son petit Marlo à côté d'elle, son fils c'était énormément d'émotions de voir son visage. Et vraiment, elle avait les larmes aux yeux, elle était hyper touchée. C'est un moment fort. C'est quand même, en plus, deux très, 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 très grands champions. C'est-à-dire qu'ils combinent tout. Ils ont un track record sportif fabuleux. C'est deux sportifs d'expérience. Elle, c'est sa 4e édition des Jeux. Lui, sa 3e. Elle a été championne du monde, deux fois médaillée aux Jeux. Lui, il est numéro un mondial en slalom, dernier champion olympique en titre à Pékin, on s'en souvient. Donc, c'est des profils extraordinaires. Et en plus, c'est des athlètes engagés. Elle fait des tas de choses sur l'environnement. Lui, pareil, il s'intéresse à plein de choses.
Ah bah quand
c'est assez marrant
drapeau,
parce
engagé,
on leur a découvert des passions communes, alors qui n'ont pas un lien direct avec notre édition des Jeux, mais deux fins gastronomes. Ils adorent le golf l'un et l'autre, chère Sarah. Oui. C'est marrant. C'est vraiment des belles personnalités.
Parce que c'est quand même un engagement de.
Ouais,
déjà de candidater, c'est un engagement parce que effectivement.
Exactement, ils s'exposent.
Tu sais pas comment tu es perçu par tes pairs, surtout que quand tu te croises pas beaucoup, parce que le monde de la neige, ils ont chacun leurs différentes coupes du monde. Et puis c'est de se dire, est-ce que je vais pouvoir combiner les deux? Parce que quand tu as ton ambition personnelle de ta performance et que tu te dis que ton peu de temps libre que tu vas avoir, tu vas devoir le dédier aux autres. Et moi, j'avais une question.
Toutes les sollicitations médias qui vont autour.
Le poids est assez lourd. Et moi, j'ai une question pour Amélie et David, d'ailleurs. Je me demande, parce que cette histoire d'être élue par ses pairs, c'est récent. Et je me demande si ce poids du drapeau olympique, à un moment, est-ce qu'on ne pourrait pas le sortir et que ce ne soit plus un sportif qui fasse les Jeux, mais peut-être un ancien, pour qu'il finalement ait plus de liberté et plus d'aura, parce que combien de fois on a vu...
T'aurais aimé quoi, voir Martin Fourcade peut-être, comme ça il n'a pas de...
Peu importe le nom, mais souvent...
Martin a été porte-drapeau et ça ne l'a pas empêché de super bien performer.
Mais la raison,
c'est qu'il faut gérer.
Il y en a qui n'en savent pas.
Alexis Pinturo, par exemple, qui ne va pas faire les Jeux Olympiques, qui est quand même le grand bonhomme du ski français de ces 20 dernières années, qui n'a pas été sélectionné, et qui du coup sentant le truc arriver, n'a pas postulé pour être porte-drapeau. Mais c'est vrai que c'est un garçon qu'on aurait très bien vu porter le drapeau.
Je pense aussi à Victor Mufajandet. C'est un peu aussi une histoire qui est douloureuse.
Mais comme
Victor,
parfois, il y en a qui
pareil,
doivent faire...
Lui, en plus, il avait fait le choix de s'engager dans le process, puis finalement, non sélectionné, il n'est ni porte-drapeau ni au jeu, et je veux qu'on ait vraiment aussi une pensée pour lui. Donc oui, Alexis, Victor, deux immenses champions qui ont fait. D'ailleurs, j'ai même pas envie de parler au passé composé parce que les choses ils sont encore des sportifs d'exception et ils continuent d'être admirables sur les pistes, hyper engagés, hyper dignes. Je trouve que l'un et l'autre ont dit des choses fortes qui méritent d'être écoutées, je pense vraiment. Et en tout cas, pour revenir au point de Sarah, bien sûr, il y a une question de la gestion de l'effort et de la bande passante. Mais ces deux sportifs d'expérience, je le disais, ils ont été plusieurs fois au jeu. Clément, il sait très bien gérer son énergie. Et puis, ils seront tous les deux à Livigno. Ça, c'est une autre spécificité, puisque vous l'avez en tête, cette cérémonie d'ouverture, elle va être dispersée entre plusieurs sites. Il y a les deux vasques qui vont être allumées pile en même temps à Milan et à Cortina. Mais il y aura aussi deux répliques de la cérémonie à Livigno et à Predazzo. Et là, le fait que nos deux porte-drapeaux, Chloé et Clément, soient ensemble à Livigno, c'est plutôt un élément très chouette. Et ce que j'ai envie de dire, Chloé, c'est la toute première fois que le snowboard est une discipline. On a une snowboardeuse pour la première fois qui est en porte-drapeau.
Oui, voilà. Alors qu'avant, on disait les X Games, les Jeux Olympiques.
En fait, c'est plus fréquent
que les Jeux Olympiques soient
bien importants. Ils ont débarqué dans les Jeux Olympiques, les snowboarders, on les appelait les nains abonnés à l'époque.
On les appelait comment?
Les nains abonnés.
Ah, ben ouais, c'est la classe.
C'est valorisant.
David.
Et puis un petit mot sur Cécile Hernandez aussi.
Ah, bien sûr, on connaît bien qui a été notre consultante.
Parce que c'était aussi le process, on voulait le faire vraiment ensemble, garder cet état d'esprit d'une équipe unifiée avec Marie-Amélie Le Fur.
Et le paraskieur Jordan Broisin aussi. David, tu voulais dire un mot sur le fait d'être porte-drapeau et de faire l'épreuve derrière? C'est possible. Bah attends, tu l'as fait, tu as gagné.
Oh, c'est ouais, mais il y a tellement longtemps que je m'en souviens plus, tu sais. Bonjour Amélie.
Bonjour David, ça va?
Ouais, c'est toi.
Yes.
Non, tout ce que tu dis est vrai, mais l'idée de Sarah est mauvaise.
Vous n'êtes pas d'accord avec moi, donc j'ai bien compris.
Non, mais non. C'est bien, parce que tu as des idées, c'est déjà pas mal.
On se taquine,
et là, c'est voilà, gentil. C'est comme ça. Et c'est gentil. Bon, non, c'est vraiment avec beaucoup d'affection. L'idée, c'est que quand tu es porte-drapeau, tu as un double enjeu, en fait. Et c'est motivant. En réalité, tu sais, quand t'es reconnu par tes pairs, t'es déjà très heureux, et tu sens que t'as un poids et un devoir d'être à la tête de l'équipe de France. Et puis, mais je t'assure que quand t'es porte-drapeau, tu te sens poussé par l'équipe de France. Et donc, pour moi, c'est une double source de motivation. À la fois de conserver ton titre et d'aller au bout de toi-même. Et puis, quand t'as toutes celles et ceux qui sont derrière toi. T'as envie de donner l'exemple, quoi, tu vois. Donc, c'est quelque chose qui, moi, m'a donné beaucoup d'énergie. Et faut le prendre dans ce
Je précise que Chloé Trespoche, porte-drapeau, sera en direct demain matin dans la matinale d'RMC à 7h40. Justement, on est avec Amélie Oudéa-Castéra, présidente du Comité National Olympique et Sportif Français à 6 jours des JO d'hiver de Milan Cortina. Oui, Amélie.
Oui.
Vous voulez rajouter un truc?
Non, je pensais à Alexis Enquincan. À Paris, était porte-drapeau, il a super bien géré son effort. Donc, je pense que c'est une question d'expérience. Et là où je rejoins Sarah, c'est voilà, quand tu es un peu dans ton début de parcours, c'est pas forcément évident. Quand t'as 3-4 éditions des Jeux, que tu sais ce que ça représente, le volume, les sollicitations, gérer ta bande passante, ils savent le faire, ils en sont conscients.
Christophe. Alors, ce sont les premiers Jeux après évidemment cette quinzaine de rêves que nous avons vécu tous ensemble à l'été 2024. On peut pas dire que l'engouement quand même pour ces Jeux d'hiver soit identique à celui qu'on a connu en France pour les Jeux de Paris. C'est évidemment la différence entre les Jeux d'été et les Jeux d'hiver.
Mais c'est dur
à admettre, c'est dur à vivre aussi pour les athlètes d'hiver qui doivent un peu avoir le sentiment d'être les parents pauvres de l'olympisme. Est-ce que vous en parlez avec eux? Est-ce que vous avez ressenti
ce malaise? Moi, Christophe, je suis assez optimiste parce que je pense qu'en fait, il y a plein de symboles qui sont assez forts et qui vont générer de l'intérêt. Au-delà du fait que je pense que cette équipe va performer. Et c'est quand même ça qui va générer le plus d'engouement naturel. Mais au-delà de ça, je pense que c'est quand même le retour des Jeux d'hiver en Europe, ça faisait 20 ans qu'on les avait pas eus. Il y a un côté, c'est les premiers Jeux après ceux de Paris, c'est les derniers avant ceux de 2030. On retrouve du public. Les derniers, c'était sous Covid à Pékin. Donc, il y a quand même une excitation et je trouve une envie du public français. Là, on l'a vu dans des enquêtes d'opinion. Assez massivement, ils ont envie de regarder cette édition. Assez massivement, ils croient dans vraiment le succès de cette équipe. Et je pense que le fait qu'à Paris, il y a eu la réussite du top 5, le fait que là, on affirme notre ambition d'être dans le top 5 sur les Jeux d'hiver, c'est compris, c'est vécu comme réaliste, comme crédible. D'ailleurs, les projections.
C'est quoi l'ambition, du coup, en termes de médailles?
C'est quoi une vingtaine de médailles?
On rappelle, c'était 15 médailles.
Alors, moi, je déteste, vous vous en souvenez, parler en termes absolus. Parce que c'est le truc. Mais en revanche, ce que je peux vous dire en point de repère, c'est que par rapport aux précédentes éditions, c'est quand même un stretch. Parce qu'il faut aller chercher, grosso modo, plus de 50% de médailles par rapport à notre profil habituel. C'est jouable. La dynamique, elle est formidable.
Hein, pas 15 médailles.
Oui, mais alors ce qui compte, c'est l'or.
Oui, évidemment,
c'est toujours ces 4-5 médailles d'or. Là, il faut qu'on aille chercher 50% de plus, quoi. Donc, je vous laisse faire les calculs. Je n'aurais rien dit, moi. Mais c'est du relatif. On sait que États-Unis, Norvège, c'est dur. Après, dans un mouchoir de poche, on est plusieurs nations européennes hyper compétitives. L'Italie va être aussi poussée à domicile. Il y a les Allemands, il y a les Suisses, il y a les Néerlandais. Donc, on est dans un mouchoir de poche. Voilà. Le fait qu'il y ait moins de Russes est plutôt une opportunité. Au total, il y aura une vingtaine de Russes et Biélorusses. Je crois qu'il y a 13 Russes exactement pour l'instant. C'est ouvert. Et puis, rappelons-nous nos forces. Cette équipe de biathlon, par exemple, est exceptionnelle.
Ah ben bah aujourd'hui,
hommes et femmes, donc sur les relais mixtes aussi. Et, alors, et on a en alpin, on a évoqué tout à l'heure Clément, on a Paco Rassa sur le ski alpinisme, discipline qui fait son entrée là.
On va découvrir,
là,
effectivement.
C'est magnifique. Génial. Alors, on a des très
vous,
très forts.
Vous avez parlé du biathlon, Amélie Oudéa-Castéra. L'un des sujets qui a beaucoup animé notre saison olympique, c'était par exemple la présence de Julia Simon. On rappelle qu'elle a gagné à Novemesto l'année dernière pour son retour en Coupe du Monde, en tout cas lié depuis quelques semaines.
Et encore récemment à Novemesto sur
exactement,
la
exactement. Donc elle a été condamnée, on rappelle, cet automne à 3 mois de prison avec sursis, donc 15 000 euros d'amende pour fraude à la carte bleue. Elle a été suspendue un mois par la commission de discipline de la Fédération française de ski. Ça a beaucoup fait parler autour d'elle. Est-ce que, pour vous, ça a été un casse-tête au Comité national olympique français de se dire, est-ce qu'une athlète condamnée, mais qui a une très grande chance de médaille, doit faire les Jeux olympiques ?
Ça a été très bien géré par tous les protagonistes. Vraiment. Moi, je rappelle, la justice est passée, la sanction disciplinaire posée par la Fédé est passée, a été respectée, etc. Les filles ont fait preuve d'énormément de maturité. Lou Jean Monod, Justine Brezaz-Boucher, la manière dont elles ont appréhendé les choses et le fait que cet épisode douloureux, parce qu'en plus il y a eu du cyberharcèlement, enfin il y a eu plein de trucs autour de ça qui ont été vraiment épouvantables et inadmissibles. Mais elles n'ont pas perdu leur focus, elles n'ont pas perdu leur unité.
Ça vous a préoccupé parce que c'est le plus gros pourvoyeur de médailles.
Sur le moment, bien sûr, ça préoccupe, mais c'est aussi une équipe dont l'encadrement est très expérimenté, qui connaît les psychologies de ce collectif, et elles ont su montrer qu'elles étaient capables de passer au-dessus. Et je pense que cet
dans un moment
état
comme ça, la présidente du CNOSF,
cette force,
est-ce qu'elle parle avec la Fédération française de ski pour dire attention, on a besoin d'elle.
Bien sûr. Non mais
d'elle avec KS.
Mais évidemment, et surtout, on a besoin d'avoir une équipe qui sache faire la part des choses, qui sache rester unie, qui sache se concentrer sur le sportif. Et je pense que les filles n'ont pas été dans le déni. Une Lou, elle s'est exprimée, elle a dit que c'était difficile, elle a dit qu'il y avait des choses qui la dérangeaient. On connaît aussi l'amitié qui est extrêmement forte entre Justine et Lou. Et tout ça, ça leur donne aussi de la force pour faire face à ces moments-là. Et puis, Julia, elle a un mental hors norme. Il y a quelque chose d'inoxydable chez cette championne. 6 fois championne du monde, je crois. Bon, voilà, c'est une chance.
Animal, elle nous l'a dit la semaine dernière.
Ouais.
Vous avez été sportive de haut niveau, Amélie. Vous avez joué au tennis à très haut niveau.
À l'époque de ça.
Est-ce qu'on a besoin d'être copine?
On s'est jamais joué en match.
Non, on a regardé, on a vérifié. Vous n'avez jamais.
On aurait dû 10 fois.
Alors que pourtant, vous êtes de la même génération.
Oui, à peu près.
Qui aurait gagné? Qui était la plus forte des deux, d'ailleurs? Tiens,
ça sur quelle surface, et ça dépend de plein de choses.
Votre meilleur classement à toutes les deux.
Sarah était largement devant. Moi, j'ai été 251e et Sarah.
Moi, j'ai été 29e.
Bon, mais voilà.
Moi, j'ai arrêté au moment de passer professionnel.
Vous avez fait beaucoup d'études pour arriver à ce niveau-là. Est-ce qu'on a besoin d'être copine pour être dans la même équipe sportive?
Non.
On a vu qu'en relais, non. Finalement, ça n'avait pas
Il y a toujours des affinités. Et Sarah, comme moi, on a été en équipe de France avec des filles qui étaient nos amies extrêmement proches et d'autres dont on était moins proches, voire rivales. Moi, je ne vais pas citer de nom, mais il y en a qui... Voilà, et ça ne nous a pas empêchés d'être super performants. Je pense que c'est aussi la gestion du coach. C'est un peu sa responsabilité. Je pense qu'il faut aussi faire la part des choses quand on est sportif de haut niveau entre, justement, ses émotions et son focus sportif. Ça fait partie de la vie d'une délégation.
L'un des derniers sujets qui nous a préoccupés dans la préparation olympique, David, juste une petite seconde, les relations troublées entre deux athlètes qui ont été champions olympiques ensemble, en temps sur glace. C'est Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron. On rappelle que dans un livre qui a été publié ce mois-ci par Gabriela Papadakis, elle a dénoncé une relation sous emprise avec Guillaume Cizeron, qui a lui évoqué des propos diffamatoires. On en a parlé ici.
Oui, qui a saisi la justice.
Exactement. Guillaume Cizeron qui patine désormais avec Laurence Fournier-Baudry. Ils ont été champions d'Europe d'ailleurs. On les félicite et on l'a fait il y a quelques semaines.
Sixième fois pour lui aussi.
Quel rôle peut avoir le comité olympique dans une affaire comme ça? Quand on a deux champions olympiques qui se chamaillent, on va dire, dans les médias, et avec un Guillaume Cizeron qui était candidat pour être porte-drapeau, avec un Guillaume Cizeron qui est une des plus grandes chances de médaille française.
Trois choses. D'abord, Gabriela, elle a dit des choses graves, gravissimes, sur des violences sexuelles dont elle dit avoir été victime, qui sont des faits qui n'étaient pas connus.
Rien à voir avec Guillaume Cizeron.
Et moi, ma responsabilité de présidente du Comité national olympique et sportif français, c'est de m'assurer, et ça a été fait, que la Fédération des sports de glace investigue dans ces cas et que la parole de Gabriela soit écoutée.
Ça,
premier élément.
Ça a été le stupeur pour vous de l'entendre dire ça d'ailleurs.
Ben, une découverte pour beaucoup de ces personnes, bien sûr. C'est des faits qui n'étaient pas connus. Donc, il faut là regarder les choses, pouvoir en reparler, faire les investigations nécessaires et établir la vérité des faits, en tirer toutes les conséquences. Mais l'écoute des victimes est capitale. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, Guillaume. Guillaume, il a eu une très bonne réaction. Très solide, un peu à son image. C'est un garçon qui est extrêmement rigoureux dans ce qu'il fait. Je pense qu'il a pris la bonne décision de prendre des distances par rapport à ça. Romain Hagenauer, leur ancien entraîneur commun et aujourd'hui continue de suivre Guillaume, a été aussi super pour gérer ça. Et moi, j'ai veillé à lui envoyer un petit mot. On a pu échanger tous les deux. Et je l'ai senti capable, lui aussi, CF notre conversation juste avant, de bien séparer les choses et de garder sa concentration, son focus, sa sérénité pour ne pas être perturbé par ces épisodes qui sont forcément difficiles et délicats. Et puis, moi, mon rôle, c'est ensuite de laisser faire vraiment l'encadrement. Et là, la fédération des sports de glace.
Mais Gabriela n'est plus dans l'encadrement. Elle est livrée à elle-même. Elle a d'ailleurs même la chaîne de télé qui devait l'embaucher a préféré renoncer. Donc elle se retrouve punie aujourd'hui.
Mais de faire en sorte que l'encadrement de la Fédé des sports de glace gère bien les choses autour de l'équipe, autour du duo formé maintenant par Laurence Fournier et Guillaume Cizeron, et de faire en sorte que chaque chose en son temps, chaque procédure en son temps, chaque problème ait sa modalité de résolution, et qu'on ne mélange pas tout et qu'on préserve au mieux les athlètes, mais aussi l'intégrité physique, morale, mentale de Gabriela, qui je veux aussi adresser une pensée parce qu'elle souffre.
On revient dans un instant dans les grandes gueules du sport avec Amélie Oudéa-Castéra, présidente du comité national olympique et sportif français.
Et en tout cas, Guillaume et Laurence, on y croit à fond.
Ah bah, champion d'Europe, évidemment.
Grand avec espoir un de médaille.
Oui, s'il faut 10 médailles d'or, on compte sur eux quand
j'ai
même.
J'ai pas dit ça.
Rapidement, Eric Salio à l'Open d'Australie, la numéro 1 mondiale, Zabalenka, bousculée, plus que bousculée désormais en finale de l'Open d'Australie.
Ouais, elle a un set de retard, Zabalenka, puisque Rybakina a pris la première manche 6-4, le plus logiquement du monde. Elle joue extrêmement bien. Si elle parvient à conserver ce niveau de jeu, je pense qu'elle peut aller chercher le titre. Maintenant, attention, il y a 3 ans, elle s'était jouée en finale et Zabalenka avait gagné 4-6, 6-3, 6-4. Donc, elle avait su se reprendre.
Et c'est maintenant le match en 3-7. Oui, Amélie Oudéa-Castéra.
Il faut qu'on parle des juniors aussi.
Et Junior, les en tennis. Sonia
Efremova
en finale.
C'est quand même fantastique.
Comptez sur
je suis particulièrement heureuse parce qu'on l'a naturalisée, on a fait un bon choix, je pense. Elle a un parcours génial, une niaque d'enfer. Je me rappelle Sarah dans les années jeunes, ta niaque aussi.
Ouais. Eric Salio suit ça au plus près, évidemment, le parcours des juniors à l'Open d'Australie et nos Français. Ben oui, on est là en deuxième semaine. Et alors, allez, à tout de suite dans la grande gueule du sport sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport avec Marc Maggio, David Douille et Christophe Cessieux, Sarah Pitkowski. On est avec Amélie Oudéa-Castéra, présidente du comité national olympique et sportif français à 6 jours des JO d'hiver. D'abord rapidement Eric Salio, la finale de l'Open d'Australie féminine entre Zabalenka et Rybakina.
7-0 donc pour Rybakina au début du deuxième, 1-0. Et pour répondre à Amélie Oudéa-Castéra, demain à midi, elle sera sur la Rod Laver Arena, Knessia Efremova, puisque les Australiens mettent les juniors sur le central et c'est une excellente initiative.
C'est génial.
On suivra ça, évidemment.
Coup de chapeau pour Mladenovic pour sa finale en double mixte. Ce beau retour, c'est chouette.
On suit tout, évidemment, sur RMC, vous le savez. Alors, je vous le disais, donc les Jeux Olympiques, c'est dans 6 jours. C'est une compétition éminemment olympique, on le dit à chaque fois, hein, dans le fil de l'histoire. On a vu plein de célébrations, notamment, qui avaient un rapport avec cela. Amélie Oudéa-Castéra, on est dans un contexte mondial, on va dire, très turbulent, hein, avec une guerre toujours entre l'Ukraine et la Russie, les relations diplomatiques que je pourrais qualifier de fraîches avec les États-Unis. Est-ce que vous donnez des consignes aux athlètes pour qu'ils soient prudent sur leur communication par rapport à tout cela, quand on voit par exemple Victor Wembanyama aux États-Unis qui a pris la parole sur ce qui s'est passé à Minneapolis et ça a été très commenté. Est-ce que vous dites peut-être plus que jamais aux sportifs attention à ce que vous dites ou pas du tout?
On ne dit pas comme ça. Il y a un guide de l'athlète et de la délégation où il y a toutes les explications sur le respect de la charte olympique, dont on sait qu'elle demande qu'on mélange pas tout, on mélange pas ses expressions, ses opinions politiques, religieuses avec le sport. Il y a cette idée de la neutralité du sport. Mais ça laisse aussi des espaces parfois de liberté d'expression, et c'est tant mieux. Moi, je considère que les athlètes, faut jamais les forcer, mais faut jamais les museler non plus. Voilà. Donc, il y a des règles sur le field of play, ce qu'on appelle le field of play, donc le terrain de jeu. Il y a cette neutralité. Elle est importante. Elle fait partie de l'ADN olympique. On veut que le sport ne soit pas politisé. Le sport, ça doit être un espace de rapprochement des peuples autour des valeurs universelles. C'est quand même ça l'idéal olympique. Mais
on est dans un contexte particulier.
Il y a quand même une force politique autour de l'olympisme. Et moi, j'aime jamais quand on sépare totalement les deux. Pourquoi ? Parce que il y a cette idée de la trêve olympique qui fait l'objet maintenant d'une résolution aux Nations Unies. C'est un moment où, au contraire, on veut porter un message de paix. On veut dépasser les clivages. Donc le sport doit y aider. Il ne faut pas qu'il antagonise, mais porter une aspiration à un monde plus pacifique,
on dépasse
c'est pas un mauvais moment pour l'exprimer,
mais en même temps,
est un athlète.
La division de la police de l'immigration américaine ICE, qui est au cœur d'une série de violences commises aux États-Unis, va être envoyée en Italie pour les Jeux Olympiques. Alors elle ne patrouillera pas, mais aura un rôle simplement consultatif. C'est ce qu'a dit l'ambassadeur américain à Rome. On est quand même dans un contexte, vous parlez de trêve olympique, on est en train de se servir de ces jeux pour faire aussi de la politique. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on voit.
J'ai pas aimé cet épisode. J'ai pas aimé vraiment. J'ai trouvé qu'il y avait dans cette com là des derniers jours beaucoup de confusion, des rétropédalages, des trucs pas clairs. Et je trouve que c'est pas bien. Donc heureusement qu'au moins a été dit qu'il y aurait évidemment aucun rôle en matière d'immigration en Italie pour cette brigade qui au départ était censée entourer
Vance et Marco
Rubio.
Si vous les croisez à Milan, vous changez de trottoir. Quand même, non,
Non, mais c'est quand même. On est dans des jeux particuliers, plus que jamais.
Moi, confiance dans la capacité des Italiens à bien faire les choses.
Par exemple, avec vos porte-drapeaux, hier, quand vous leur dites. Parce que le porte-drapeau, c'est un sujet éminemment politique aussi. Hein. On va faire tous les médias. Est-ce que vous leur avez donné des consignes? Attention, on ne parle pas de politique. On essaie
d'être prudent. On les alimente régulièrement. On a un dialogue qui est hyper fluide avec eux. Ils savent très bien qu'ils peuvent nous poser exactement toutes ces questions et qu'ils sont très entourés, très encadrés. Au total, hein, on a parlé de nos 160 athlètes, mais on aura une délégation de 400 membres. Il y a beaucoup d'encadrement, il y a beaucoup d'équipes qui sont là. On a un suivi qui est très précis de l'actualité, de ce contexte politique, géopolitique. Donc, ils savent que s'ils ont besoin, ils se tournent vers nous et on va les aider. Moi, je veux pas que ça les perturbe. On l'a dit, porter cet enjeu de cohésion de l'équipe, plus se centrer sur le sportif, c'est déjà beaucoup. Et je crois que voilà, il faut pas leur en demander plus à ce stade. Par contre, si eux ont envie, ils savent qu'ils peuvent se tourner vers nous.
David Douillet, une question pour Amélie Oudéa-Castéra qui est avec nous dans la grande gueule du sport, la présidente du comité olympique et sportif français.
Ouais, non, c'est un espèce de constat sur le long terme. Les jeux, le sport en général a toujours été l'otage de la politique mondiale. Je vais pas vous rappeler les épisodes des élections de certaines villes, de certains pays pour l'organisation des jeux. Je vais pas vous rappeler de ce qui se passe là très concrètement pour la Coupe du Monde de foot aux États-Unis. Bref, c'est pas facile pour des fédérations, pour des pays comme les nôtres qui respectons la charte olympique et la neutralité du sport, de faire que tout le contexte géopolitique mondial à travers le monde du sport et à travers les sportifs reste acceptable. Et c'est compliqué pour un athlète, surtout, je pense à l'exemple de Wemby en ce moment, aux États-Unis, de rester silencieux, parce qu'il est hyper sollicité. Donc en fait, un athlète, il a toujours une pression, il y a toujours un journaliste pour lui poser la question, à lui de répondre ou pas répondre et de prendre ses responsabilités. Mais c'est compliqué de mesurer dans quel cadre est-ce que tu es dans l'équipe de France Olympique ou est-ce que tu es toi-même ou est-ce que tu es dans ton sport. C'est la frontière est très fine et très limite.
Mais par exemple, vous le soutenez, Victor Wembanyama, quand il prend la parole comme ça, en disant je suis horrifié en étant aux États-Unis.
Il dit qu'il est horrifié et je trouve que.
Vous en avez parlé avec lui ?
Il a, pas directement. J'ai lu ses déclarations et j'ai trouvé qu'il l'avait, comme d'habitude, dit avec énormément d'intelligence et de maturité en disant « Je sais dans quel contexte je dis ça, donc j'ai mes curseurs à gérer. Je veux les mettre aux bons endroits. Je dis ce mot qui l'a complètement pesé et sous-pesé. Et en même temps, il n'a pas voulu s'étendre parce qu'il sait que le contexte est particulier, qu'il a aussi besoin de se centrer sur son sport. Il a, je pense, extrêmement bien synthétisé.
Mais il a pris des risques.
Il a pris des risques. Il a été courageux. Il a dit ce qu'il avait dans le cœur. Et en même temps, il n'en rajoute pas parce que il est là, c'est un joueur professionnel de basket, il a ses échéances et il veut pas que tout ça le bouffe trop. Il l'a parfaitement expliqué et je trouve que c'est une super inspiration pour nos athlètes sur ces questions.
Les États-Unis seront le lieu de plusieurs grandes compétitions majeures dans quelques mois avec la Coupe du Monde, puis les Jeux Olympiques à Los Angeles en 2028. Certains évoquent déjà, si la situation ne s'améliore pas et si les relations restent fraîches avec le président Trump et son administration, évoquent un possible boycott de ces compétitions. Je voudrais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que ça pourrait être une solution envisagée ou est-ce que justement vous vous battez pour que toutes les délégations
françaises participent? Moi, je considère que les boycotts, c'est quand même toujours la défaite du sport et des athlètes. Donc je trouve que c'est quand même vraiment l'ultime, ultra dernier recours si jamais passe quelque chose de bon. On n'en est pas du tout là.
Mais vous en parlez avec Philippe Diallo, le président de la Fédération française de
football. Il a été très clair, lui aussi, sur le sujet. Aujourd'hui, cette Coupe du Monde qui arrive sur ce mois de juin et de mois de juillet, elle est excitante pour chacun. On n'en est pas du tout à évoquer un boycott.
Mais ça vous préoccupe?
Je pense encore une fois qu'il ne faut pas politiser le sport. Moi, je rappelle qu'il y a une Coupe du Monde avant.
Le président américain la politise à fond.
On ne va pas jouer son jeu. Sinon, on est tous plantés. Hein, si on se met à jouer tous le jeu de Trump, c'est fini. Donc, voilà. On connaît le personnage. On connaît ses travers, ses excès, les risques qu'il fait prendre à beaucoup de choses et de gens. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas en rajouter. Il faut rester concentré sur nos valeurs. Il faut se dire que c'est un moment de sport exceptionnel. Moi, je rappelle que à l'époque, en 2018, il y a la Coupe du Monde de foot qui se passe en Russie, qui avait annexé la Crimée. Il n'y avait pas toute une série de gens qui demandaient du boycott, etc. Donc, je pense qu'il faut raison garder, se concentrer sur les enjeux sportifs, laisser par ailleurs la politique, la diplomatie agir comme elles le doivent et faire en sorte que là aussi, notre équipe de France soit le moins perturbée possible.
Une dernière question à Amélie Oudéa-Castéra. David?
David. Oui, non, j'ai une question. J'ai une question qui est très personnelle, en fait. Amélie, tu as été ministre des Sports et aujourd'hui, tu es présidente du Comité national olympique. J'aimerais savoir ce qui t'a motivé pour passer du côté de l'État au côté associatif. Et j'engage déjà une piste et je me dis que vu ton expérience que tu as pu avoir et qu'elle est quelquefois peut-être frustrante en tant que membre d'un gouvernement, tu as voulu être plus libre et faire plus de choses pour le mouvement olympique à la tête du CNO. Est-ce que je me trompe ou pas?
C'est une question d'un ancien ministre des Sports. Et ce que si tu veux, enfin moi c'est mon amour profond du sport. Je pense que c'est un domaine qui est totalement exceptionnel et qui a encore plus à apporter à la société que ce qu'on lui permet de faire aujourd'hui. Ça c'est vraiment ma conviction de fond et j'ai envie d'y consacrer ma vie, en fait ma vie d'engagement et ma vie professionnelle. Après, je suis hyper contente aujourd'hui d'avoir cette liberté de posture de la société civile. Voilà, parce que je me sens tout aussi engagée, si ce n'est encore plus, et je pense que il y a vraiment la capacité, en plus, sans instabilité politique, d'ancrer un effort, d'ancrer un engagement au service du sport, des athlètes, du développement de la pratique. Et honnêtement, ça m'épanouit beaucoup.
C'est quoi le meilleur job, ministre ou président du CNO?
C'est patronne d'une délégation qui va briller au jeu. Elle l'a fait à Paris. Elle doit le faire à Milan. Et on le fera en 2030, j'espère, de tout cas.
Ah, David, ça te rappelle tes leçons, ça?
Je suis heureux qu'Amélie soit à la tête du sport français parce que elle a toute l'expérience. Elle connaît les deux côtés de la barrière. Donc voilà. Et aujourd'hui, elle a toute la liberté pour faire avancer le sport. Voilà, c'est chouette.
Dernière question, Amélie Oudéa-Castéra, parce que c'est un dossier important pour le sport en France. L'organisation des Jeux Olympiques d'hiver d'Alpes 2030. On a l'impression que ça tangue peut-être un petit peu parce qu'il y a eu des démissions dans la direction du COJOP. On a entendu les mots inquiétude ces derniers jours dans le ministère des Sports. Ça a l'air de, on a l'air de mettre en place des choses désormais pour que ça aille mieux. On est inquiet ?
On est vigilant et attentif. Moi, je continue de dire que les fondamentaux de ce projet sont juste fantastiques. C'est fantastique pour notre pays, pour nos athlètes. C'est aussi une occasion de penser le devenir de la montagne sur le plan écologique, sur le plan économique à l'horizon de 2050. Ça peut nous permettre de faire progresser ces enjeux, la réflexion, l'embarquement de toutes les parties prenantes sur ces enjeux, etc. Et c'est une grande chance pour les territoires concernés. Je note que le projet, il avance bien sur des briques qui sont essentielles. La loi olympique, le budget. Là, il y a maintenant la maquette de la Solideo qui est complètement stabilisée, qui construit tous les ouvrages, etc. Donc, il y a plein de choses qui avancent bien. Il y a un petit peu d'instabilité au COJOP. Moi, je l'ai dit, dans le dernier bureau exécutif, ce qui est important, c'est de se dire les choses, qu'il n'y ait pas de déni, qu'il y ait de la lucidité et qu'il y ait du courage, quand il y a des problèmes, de les traiter. Et tant qu'on fera ça, ça ira. Donc là, il y a maintenant, suite à ce bureau exécutif, une prochaine échéance le 19 mars, au lendemain des Jeux paralympiques de Milan-Cortina, dans laquelle Edgar va revenir devant nous, les parties prenantes, avec son plan pour ajuster les choses. Il est président du COJOP, c'est important qu'il soit garant de sa stabilité. Et moi, je veux qu'on réussisse, au fond, une forme de synthèse culturelle entre pas mal d'équipes de Paris 2024, dont on sait l'expertise. Voilà, ils ont fait des trucs géniaux. Il faut les embarquer dans cette aventure.
On
et en même
temps,
la spécificité culturelle de la montagne.
Est-ce que Étienne
Taubois,
qui était directeur général, pour rejoindre ?
Et c'est cette synthèse-là, avec les deux régions, qui peuvent nous apporter aussi beaucoup. Si on réussit ça, on aura le meilleur des deux mondes. On aura cet ADN, l'expérience des grands événements, et en même temps, la connaissance, l'expertise locale des montagnes. Et on va à nouveau livrer aux Français et au monde entier, pas seulement des beaux jeux, mais des grands jeux.
Il faut infuser un peu de Paris 2024, quoi.
Oui, et de la montagne, les deux, cette synthèse, c'est ça qu'il nous faut.
Vous rappelez Tony Estanguet ?
Oui.
Tony, je suis sûre que là où il sera, il continuera de soutenir cette aventure. Ce qui est important, c'est là, on a une équipe qui est très responsabilisée, qui est très concentrée sur ses échéances. Et on a de la suite dans les idées. On sait que préparer les Jeux, c'est pas facile. Voilà, n'oublions pas toutes les péripéties par lesquelles on est passé à Paris 2024. Ce qui compte, in fine, c'est d'y arriver et on y arrivera.
Aussi, Tony Estanguet, qui était là il y a quelques semaines, nous a rappelé effectivement toutes les péripéties. Il nous a un peu avoué que c'est vrai que les journalistes, on l'avait un peu embêté quand même pendant toute cette. Mais on est là aussi pour s'assurer que nous marions bien.
C'est aussi à nous dépasser.
Merci beaucoup, Amélie Oudéa-Castéra, présidente du Comité national olympique sportif français, à 6 jours des JO d'hiver.
Bon séjour en Italie. Et si vous croisez la ice, faites attention.
Effectivement, les brigades américaines. Merci beaucoup. Allez, dans un instant, on va continuer de suivre la finale de l'Open d'Australie. Bien sûr, je vous rappelle que RMC Radio officielle des Jeux. Vous n'allez rien rater avec Christophe qui sera sur place. Ah ! Et alors là, le jeu retentit. Ça veut dire qu'il faut que je retrouve le jeu parce que c'est le moment pour vivre l'expérience RMC, gagner vos places France-Irlande ce jeudi 5 février au Stade de France. Envoyez dans les 5 prochaines minutes rugby au 7-32-16. Rugby au 7-32-16. Dans un instant, le j'y crois pas, on revient avec les grandes gueules du sport sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport, rapidement, la finale de l'Open d'Australie. Eric Salio entre Zabalenka et Rybakina, on en est où ?
Ah, c'est un beau petit match, 7-0 donc pour Elena Rybakina, 6-4. Mais c'est Zabalenka qui mène 3-2 dans le deuxième, 3-2, mais il n'y a pas de break. Donc elle est encore sous pression, la Bélarusse.
Elle est sous pression. Dans un instant, le vestiaire des grandes gueules du sport sur le poids des caméras. Il y en était beaucoup question à l'Open d'Australie cette semaine, mais d'abord, le j'y crois pas.
RMC, les grandes gueules du sport, j'y crois pas.
Avec Marc Madio, avec Sarah Pitkowski, David Douillet, Christophe Cessieux, j'y crois pas les amis, les problèmes au cœur de Winnie Antonio vont encore plus unir les Bleus pour le tournoi des Six Nations. Christophe.
Je pense que oui. On doit d'abord donner la réponse.
D'abord,
je pense que ça va.
Moi, j'y crois pas trop.
Sarah.
Moi aussi.
David.
Je suis pas sûr que ça soit un élément.
Ouais. J-5 avant France-Irlande en ouverture du tournoi. Les Bleus ont été touchés cette semaine donc par l'annonce de la fin de carrière du pilier droit Winnie Antonio, victime d'un accident cardiaque et opéré au centre hospitalier de La Rochelle. Il est sous surveillance à l'hôpital et dans un état stable. 68 sélections au compteur. Il devait participer au tournoi. Hein. Ça a été un choc pour le groupe. On a vu que La Rochelle est très touchée. On a vu le manager Ronan O'Gara.
Il y aura un hommage d'ailleurs qui sera rendu à Winnie cet après-midi au moment du coup d'envoi à 16h30.
Mais toi, tu crois que ça peut.
Alors, je pense que ça peut donner un petit supplément d'âme lors du premier match. match, parce que voilà, c'est vrai que ce garçon était considéré un peu comme le papa de l'équipe de France.
C'est pour ça qu'on pose la question.
Il faisait partie des meubles, toujours le sourire, toujours un petit mot sympa pour ses coéquipiers. Il était vraiment très apprécié, et d'ailleurs les avis et
sont unanimes
le concernant. Donc je pense que rien que pour ça, ils vont vouloir lui faire du bien et essayer de lui redonner le moral en allant gagner. Après, sur le long terme, je pense pas que c'est beaucoup d'incidence, et même ça pourrait avoir une incidence négative, le fait qu'il soit absent, parce que c'était un garçon indispensable à l'équipe de France. C'est un poste, le poste de pilier droit, où on a très peu de concurrence, très peu de joueurs du même niveau que Willy Antonio.
Sur le terrain,
c'est Régis Montagne de Clermontois qui sera sans doute appelé. Il y avait un autre joueur qui s'appelle Tatafou, mais qui est blessé éternellement. Donc voilà, et c'est vraiment un poste où on a des problèmes, où Fabien Galthié a des problèmes. Donc l'absence, la retraite maintenant de Willy Antonio risque de poser des problèmes à l'équipe de France, à ce poste-là qui est un poste capital en rugby.
David, toi, tu penses que quand un drame comme ça touche un groupe, ça peut les unir?
Oui, c'est les ferments d'un ciment, si tant est qu'ils en avaient besoin. Mais je pense qu'ils vont évidemment tous jouer en pensant à leurs potes, forcément. C'est malheureusement des drames qui arrivent très souvent, et en particulier dans le monde du sport, parce que ça met en exergue les faiblesses physiques des athlètes.
Avoir un infarctus à 35 ans, c'est quand même pas...
C'est ça qui me choque, moi.
C'est pas commun, non?
Mais t'en as plein, t'as plein d'AVC, ouais, t'as plein d'infarctus, t'as des gens qui meurent, il est pas mort. Hein,
Heureusement. Ce qui m'épate, c'est qu'à ce niveau de suivi...
Oui.
Et d'accompagnement des athlètes. On se retrouve dans cette situation avec un joueur à 35 ans. Moi, ça me surprend un peu.
J'ai posé la question à une amie qui est cardiologue.
Oui.
D'ailleurs, qui m'a pris la tête parce qu'elle m'a dit. T'as intérêt de te faire suivre parce que vous, les athlètes, après la carrière, vous êtes sujets.
Vous
un peu plus que les autres à avoir des défauts cardiaques parce que vous avez utilisé votre cœur d'une certaine manière, voilà. Et donc ça, c'est à prendre en compte. Elle me disait le cœur, c'est pas une science exacte. Il y a des choses qui peuvent se déclarer instantanément que tu ne peux pas déceler, jamais déceler.
J'y crois pas, les amis. La chute de Vingegaard en vélo va entamer sa confiance pour la saison. Marc, oui ou non?
Non.
Christophe?
Non.
David?
Non.
Sarah?
Non, je pense pas.
Je rappelle qu'il est tombé à l'entraînement dans les circonstances, un peu floues cette semaine. La Visma a expliqué qu'il avait été gêné par un amateur qui le suivait dans une descente, alors que ce dernier a assuré que le Danois roulait trop vite pour le lâcher. Il ne souffre d'aucune blessure grave, je le rappelle. Vingegaard qui doit effectuer sa reprise le 16 février pour l'UAE Tour. Marc, ça va pas le marquer?
Non, ça va pas le marquer. Après, je perçois tout à fait le contexte qui a pu se mettre en place autour de Vingegaard sur une sortie d'entraînement. En fait, quand on est sportif professionnel en cyclisme, on est sur la voie publique pour s'entraîner, et de temps à autre, on croise ou on se retrouve avec
faire la course avec les champions,
des cyclistes amateurs ou des cyclos qui veulent se faire plaisir et qui veulent créer se confronter quelques instants avec le champion, et c'est toujours un peu délicat, parce que quand on est pour avoir été coureur et avoir connu ce type de situation, on perçoit en quelques secondes le niveau technique du cyclo ou de l'amateur qui est là,
celui qui peut t'envoyer au sol, quoi.
Et tu sens très vite si tu es
dans avec le téléphone à bout de bras.
Enfin, à l'époque où je courais, il n'y avait pas le téléphone portable. Ouais. Mais aujourd'hui, avec les téléphones et autres, on sent très vite la situation qui peut être périlleuse. Donc, il y a une volonté. Moi, je le remarque.
De les mettre à distance, quand même.
C'est de mettre un coup de vis et essayer de s'en débarrasser le plus vite possible.
Donc, tu comprends, en fait.
Je comprends complètement la situation. Et c'est pas forcément un signe
de fragilité
ou de mauvaise attitude ou de rejet du supporter. C'est juste un élément de protection.
Ça arrive.
En fait, c'est juste un élément de protection parce que là, il y a un endroit très tout près d'ici. Vous allez à Longchamp. Cycliste professionnel, Paris. Et ça m'est arrivé dans une autre époque, où parfois de passage à Paris, j'allais rouler à Longchamp. Donc j'allais rouler avec mon vélo d'équipe et j'allais rouler avec ma tenue d'équipe. Donc au bout, d'un quart d'heure
avec Cyril ou non,
pas Cyril mais ben,
tu te fais repérer très vite.
Mais t'es vite repéré et là tu te retrouves avec
un peloton autour de toi.
Un peloton autour de toi. Tu n'as qu'une envie, c'est d'échapper du peloton.
Donc en fait,
sans pour autant, c'était des mecs très sympas.
Il faut venir incognito, tenue noire. Et même ça.
Allez, on revient dans un instant dans les grandes gueules du sport, dans le vestiaire. On va parler du poids des caméras, notamment. Vous avez compris, si vous croisez Marc Madiot à vélo dans la rue, ne le suivez pas. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.